Chapitre 23. Elle avait poussé un soupir de délivrance, et elle allait quitter sa chaise quand elle crut entendre un bruit de pas dans la chambre voisine. Vivement, elle colla son oreille au mur. On marchait dans cette chambre. Elle fut prise d'une frayeur folle, mais ce ne fut qu'un éclair. Qu'avait-elle à craindre? Il n'y avait pas de porte de communication entre cette chambre et la sienne. On ne passe pas à travers les murs. Cependant, un bruit éclata, sur lequel elle ne pouvait pas se tromper, on avait ouvert une fenêtre. Instantanément, elle eut la sensation qu'elle était perdue. À chacune des fenêtres de cet étage, il y avait un balcon, et ils étaient assez rapprochés pour qu'un homme souple et résolu pût enjamber de l'un sur l'autre, de celui de la chambre voisine sur le sien. À la vérité, sa fenêtre était fermée, mais une vitre n'a pas la solidité d'une porte en chêne. Que faire s'il apparaissait à la fenêtre? Elle n'eut pas le temps d'examiner cette question. Au moment même où elle se la posait, une grande ombre se montra derrière les vitres, se découpant en noir sur la pâle clarté du ciel. Qu'il cassât un carreau et tournât la poignée de la crémone, elle était perdue. Si elle ne se tuait pas, il n'y avait pour elle qu'un moyen de salut, la fuite. Assurément, elle pouvait descendre l'escalier plus vite que lui. Une fois dans la rue, elle appellerait à son secours. Il faudrait bien qu'il la lâchât s'il avait osé la poursuivre. D'un bond, elle fut à sa porte qu'elle put ouvrir, et d'autant plus vite que la clé était dans la serrure. Au même instant, une vitre de la fenêtre tombait avec fracas dans sa chambre. Au risque de se tuer, elle se jeta dans l'escalier noir comme une cave, et elle le descendit autant en se laissant glisser sur la rampe qu'en dégringolant les marches. Arrivée en bas, elle entendit des pas précipités au-dessus d'elle. Heureusement, elle avait de l'avance. Il ne descendrait pas l'escalier aussi vite qu'elle, lui que la peur ne portait point. Si vite qu'elle courut, elle avait pu arranger l'itinéraire de sa fuite. Cependant, au lieu d'essayer d'ouvrir la porte du vestibule, ce qui pourrait lui prendre du temps et ce qu'elle ne réussirait peut-être pas, elle passerait par la salle à manger, dont elle refermerait la porte au verrou, et avant qu'il eût fait un détour par le salon, elle sortirait par la cuisine. Ce plan se réalisa comme elle l'avait conçu. À la vérité, elle se heurta dans la salle à manger contre un meuble qui lui donna un coup si violent à la tête qu'elle resta quelques secondes étourdie et chancelante. Mais elle se remit et gagna la rue. Arrivée là, elle se mit à courir à toutes jambes, follement, comme si elle avait le feu derrière elle. Ce fut seulement quand le souffle lui manqua qu'elle s'arrêta en se blottissant dans l'encoignure d'une porte. Elle écouta. La rue était déserte, on n'entendait que le bruit du vent et le fracas de la mer. Elle pouvait donc croire qu'il avait renoncé à la poursuivre. Cependant, elle attendit sans sortir de son abri, car dans la nuit, elle ne voyait pas assez loin pour avoir la certitude qu'il n'était pas là, quelque part, embusqué, la guettant. Et puis, elle avait besoin de réfléchir et de chercher ce qu'elle allait faire. Elle était sauvée, mais tout n'était pas fini. Où aller? Maintenant, l'heure présente n'était plus rien, le lendemain était tout. Il n'y avait plus à se dire comme la veille que la fuite c'était l'aveu. Elle s'était imposée cette fuite et si implacablement qu'il n'y avait à choisir qu'entre elle la mort ou la honte. Elle n'avait pas fui de propos délibérés, mais d'instinct, poussée irrésistiblement par la main de la fatalité. Revenir en arrière, rentrer dans cette maison, était désormais impossible, et le seul homme qui pût la défendre, le seul qui pût empêcher son tuteur de la reprendre et de la ramener chez lui le lendemain, c'était Sylvain, son subrogé tuteur. Paulin ne pouvait rien. Sylvain, subrogé tuteur, pouvait sans doute, au nom de la loi, opposer de la résistance au tuteur. C'était donc auprès de son cousin Sylvain qu'elle devait chercher un refuge. À ce moment, elle entendit un bruit de voix que la boisson avait épaissie et de pas lourds qu'elle avait rendus titubants, des matelots attardés qui rentraient chez eux en discourant comme des ivrognes qu'ils étaient. Devait-elle se sauver devant eux? Devait-elle les laisser passer en s'effaçant dans l'embrasure de la porte et en comptant sur ses vêtements noirs pour la cacher? À deux, ne la rejoindrait-il pas? Elle était à bout d'haleine. cela la décida à rester immobile en se faisant aussi petite que possible. Déjà, ils arrivaient. Vois-tu, disait l'un, écoute-moi bien. Quand le matelot est dans la mâture par un coup de vent, il doit se rappeler qu'il a deux mains, une pour l'armateur et l'autre pour lui, la bonne. L'attention avec laquelle cette leçon pratique était donnée et reçue avait sauvé Marichette. Ils passèrent devant elle sans la voir. Malgré le moment de frayeur qu'elle venait d'éprouver, elle n'avait pas cessé de suivre sa pensée et le souvenir des paroles de Sélanie s'était présenté à son esprit. « Rappelez-vous que notre maison vous est ouverte. Accourez près de nous, nous vous défendrons, nous vous consolerons. Dans une famille, il n'y a pas que des coquins. » Qu'on pût la consoler, ce n'était pas ce qui la touchait. Dans l'angoisse de cette crise, il ne pouvait pas être question de consolation pour elle. Mais qu'on pût la défendre, c'était cela précisément ce qu'il fallait, cela seul qu'elle devait avoir en vue. Arrivée à cette conclusion, elle ne s'attarda pas à l'examiner de nouveau. La place n'était point favorable aux réflexions et elle ne pouvait pas rester là, blottie dans son coin jusqu'au petit jour. Des gens pouvaient passer qui ne seraient pas ivres et qui la verraient. Les gendarmes faisant leur ronde, la pariteur de police, des amis de son oncle qui la connaissaient. Que répondrait-elle s'il lui adressait la parole? Comment expliquerait-elle sa présence en cet endroit? On s'inquiète de ceux qui se cachent, on laisse passer ceux qui marchent et qui semblent aller quelque part. Elle quitta son abri et sans courir, mais en tournant la tête derrière elle à chaque pas, elle se mit en route vers la côte de Criquefleur. La rue était toujours déserte et silencieuse. On n'entendait que le clapotement de l'eau sur les galets du ruisseau et le gémissement du vent dans les arbres du jardin. La lune haute dans le ciel nuageux n'éclairait de sa blanche lumière qu'un côté de la rue, laissant l'autre dans l'ombre. C'était de ce côté-là qu'elle marchait, rasant les maisons et les murs, l'oreille aux aguets, sondant de l'œil les profondeurs sombres, toujours prête à se blottir dans l'embrasure d'une porte ou à se cacher derrière un angle. C'était la première fois qu'elle se trouvait seule dans les rues au milieu de la nuit. Mais l'horrible frayeur qui venait de la jeter dehors faisait qu'elle ne pensait pas à avoir peur de tout ce qui, dans un autre moment, l'eût épouvantée, le silence, les bruits inexpliqués qui la frappaient parfois tout à coup, l'ombre noire des nuages courant sur la blancheur de la chaussée, le mystère, le fantastique vague de minuit. Comme elle marchait vite, elle ne tarda pas à sortir du village et à se trouver en pleine campagne, dans cette côte de Criquefleur qu'elle connaissait si bien. Mais au lieu d'en être troublée et effrayée, elle se rassura. Elle avait moins peur du bruissement des branches que du bruit des portes et des volets. Les ombres changeantes et vivantes, des arbres agités par le vent, l'inquiétaient moins que celles des maisons sinistres dans leurs durs contours. Certaine de n'être pas poursuivie, elle avait ralenti le pas et l'angoisse du danger immédiat ne pesait plus sur sa respiration. De temps en temps, cependant, elle s'arrêtait pour écouter et regarder derrière elle. Mais elle n'entendait rien et ne voyait rien sur la route. Partout, le silence du sommeil. Au loin seulement, la lumière d'un phare veillait, jetant à des intervalles réguliers des éclats de couleurs changeantes. Elle n'avait pas à se presser, puisqu'elle ne voulait arriver chez son cousin qu'au matin. Et comme une heure venait de sonner à l'église, elle avait trois fois le temps de parcourir la distance de Saint-Maclou à Criquefleur, même en suivant la grande route, au lieu de prendre le chemin de la falaise. Elle ne tarda pas à arriver à la cavée qui conduisait à la maison de Paulin, et elle n'eut pas la force de passer devant, sans jeter un regard, le dernier peut-être, à cette maison où elle avait été si heureuse et où dormait, sans se douter qu'elle était là, celui qu'elle aimait. Elle descendit dans le trou noir de la cavée et, après avoir marché quelques instants en pleine obscurité, sans voir à deux pas devant elle, elle arriva devant la maison dont la façade blanche, éclairée en plein par la lune, lui apparut lumineuse et gaie. À ce moment, un aboiement joyeux éclata dans le silence, puis elle entendit retentir sur la terre le galop d'un chien qu'accompagnaient quelques petits cris étouffés, Psit qui accourait à elle et qui, en quelques secondes, fut dans ses bras. Tout en le caressant et en l'embrassant, elle regardait la maison avec une émotion poignante. Allait-elle donc voir Paulin paraître? mais aucune porte ne s'ouvrit. Psyte, avec ses habitudes vagabondes, n'était point rentré le soir à l'heure de la fermeture de la porte, et c'était parce qu'il couchait dehors cette nuit-là qu'il avait pu accourir à elle.